le magazine des Nations Unies.
Bonjour à tous et bienvenue à vous dans le magazine des Nations Unies dont voici les titres. Les casques bleus à l'honneur vendredi 29 mai dernier, cette journée est célébrée à l'échelle mondiale pour rendre un vibrant hommage aux casques bleus qui ont perdu leur vie à la cause de la paix et à ceux qui continuent à servir cette cause sous le drapeau des Nations Unies. Le magazine des Nations Unies fait le point sur cette journée mémorable. Les albinos, souvent victimes de discrimination, de mauvais traitements et pratiques et de la torture, ce que dénonce l'Association nationale des albinos du Congo. Comment garantir les droits de cette catégorie de compatriotes et assurer leur intégration sociale? Réponse avec le directeur du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, notre invité. Il faut gérer les risques des catastrophes naturelles en RDC, c'est ce que pense le PNUD et le gouvernement congolais. Et pour concrétiser cette décision, un projet d'appui a vu le jour le 21 mai dernier. Enjeux, défis et contours de ce projet, c'est dans cette édition avec un expert du PNUD.
Magazine des Nations Unies, actualité de la semaine.
Bonjour à tous, nous l'avons dit dans les titres, l'actualité de la semaine est dominée par la célébration en RDC partout dans le monde de la journée mondiale des casques bleus. Le magazine des Nations Unies fait d'abord le point sur cette journée dans ce condensé de Jean-Pierre Elali Ikoko.
La journée du 29 mai rend hommage d'abord aux casques bleus, hommes et femmes qui ont perdu la vie pour la paix. Ensuite, à ceux qui continuent à servir la cause de la paix sous le drapeau de l'ONU. Car un casque bleu est ces soldats qui œuvrent dans le cadre d'une opération de paix conduite sous l'égide des Nations Unies. Et l'appellation provient du fait que ces militaires portent un casque militaire de couleur de l'ONU. Au courant de cette année 2014 et 2015, 126 casques bleus sont morts, dont 51 en 2015. Et depuis la création de l'ONU à ces jours, 3300 membres du personnel de maintien de la paix ont trouvé la mort sous le drapeau, selon les sources des Nations Unies. C'est pourquoi, dans son message, le secrétaire général des Nations Unies réitère cet hommage à 107 000 membres du personnel de maintien de la paix en tenue, originaires des 122 pays, qui fournissent des contingents déployés actuellement dans 16 missions. Ban Ki-moon note également la nécessité d'adapter les opérations de maintien de la paix à des nouvelles réalités mondiales, de les moderniser grâce aux nouvelles technologies. Il faut aussi diversifier les ressources de ces opérations et renforcer les partenariats avec les organisations régionales, ajoutait-il. En République démocratique du Congo, plusieurs manifestations ont été organisées pour célébrer la journée. Une cérémonie officielle d'hommage au casque bleu a eu lieu vendredi dernier à Kinshasa, au siège des Nations Unies. Elle a été marquée notamment par la lecture du message du secrétaire général des Nations Unies et par le discours du représentant du gouvernement.
À l'occasion de la célébration de cette journée à Kinshasa, Martin Kobler a lancé trois messages. Un premier message aux casques bleus pour leur sacrifice en faveur de la paix en RDC, un deuxième message adressé aux autorités congolaises et le troisième message au peuple congolais. Suivez la substance des deux derniers messages du représentant spécial du secrétaire général de l'ONU au micro d'Honoré Missenga Kalala.
Mon deuxième message est adressé aux autorités politiques et militaires de ce pays. La MONUSCO, comme toutes les opérations de maintien de la paix à travers le monde, n'a pas vocation de s'éterniser en RDC. Elle quittera la RDC. Mais nous ne voulons pas quitter le pays en laissant derrière nous des situations non stabilisées. Nous voulons partir avec le sentiment d'un travail bien accompli. Le retrait de la MONUSCO va s'opérer par étapes et de manière progressive au fur et à mesure que seront atteints les objectifs spécifiques basé sur une évaluation conjointe entre le gouvernement et la MONUSCO. Enfin, et c'est mon troisième message, je voudrais rappeler notre raison d'être en RDC aux Congolaises et aux Congolais. Nous sommes ici pour assurer la protection des populations civiles. C'est un défi que nous pouvons relever qu'ensemble avec le gouvernement et vous, peuple congolais. J'ai visité plusieurs territoires de l'Est ces derniers jours et vu dans quelles conditions sécuritaires vous vivez. Soyez rassurés que nous ne baisserons pas les bras et continuerons à mener le combat contre l'insécurité et les forces négatives. C'est par des efforts constants et concertés que nous viendrons jusqu'au bout. Nous sommes ici pour soutenir le peuple congolais et le gouvernement. Le blocage actuel qui persiste ne profite à personne. En ce 70e anniversaire des Nations Unies, je formule le vœu d'un Congo nouveau, débarrassé de l'insécurité, d'un Congo prospère, toujours plus beau qu'avant.
Magazine des Nations Unies, décryptage.
Gestion des risques liés aux catastrophes naturelles, le PNUD et le gouvernement s'y intéressent. Ils ont lancé un projet d'appui à ce secteur le 21 mai dernier à Kinshasa. Pourquoi un projet d'appui à la gestion des risques de catastrophes? Quels en sont les enjeux et les contours? Pour en parler, Jean-Pierre Elali Koko reçoit ce dimanche Charles Wasikama, chargé de programme au PNUD. Suivez leur entretien.
Le PNUD et le gouvernement ont lancé le 21 mai dernier un projet d'appui à la gestion des risques des catastrophes naturelles. Alors Charles Wasikama, vous êtes conseiller au programme au PNUD. Bonjour.
Bonjour.
Réduire les risques d'une catastrophe, ce n'est pas toujours évident, compte tenu bien sûr du caractère imprévisible des catastrophes, n'est-ce pas?
C'est ça. Donc réduire les risques de catastrophe est vraiment très difficile parce qu'il y a un aspect aléatoire, comme vous avez dit. On ne peut pas prévoir, mais ça demande quand même qu'il y ait un travail qui soit fait pour pouvoir réduire le risque. C'est-à-dire que les catastrophes, on ne peut pas les éviter, mais on peut réduire le risque des catastrophes.
Donc voilà pour la précision. Quel est l'intérêt et l'opportunité d'un tel projet au moment où les efforts sont beaucoup plus orientés vers la lutte contre la pauvreté?
Vous savez que le PNUD, c'est le programme national, le programme des Nations Unies pour le développement. Le PNUD vise justement le développement durable. Quand on parle de durable, on veut quelque chose qui reste. Mais quand on voit qu'il y a des aléas, n'est-ce pas, naturels et autres, qui peuvent venir annihiler le travail qu'on a abattu durant 10 ans, beaucoup d'années, vous voyez ce que ça fait. Donc, c'est un souci pour le PNUD de pouvoir doter le gouvernement des capacités pour essayer de réduire le risque d'annihilation des efforts fournis pendant plusieurs années. Vous avez suivi en 2002, quand il y avait l'éruption volcanique à Goma, comment il y a eu perte même de 80% des communes locales. Ça, si on avait pu anticiper et organiser, n'est-ce pas, un plan de contingence, peut-être qu'on aurait pu réduire l'ampleur des dégâts.
Et justement, selon certains spécialistes, il y a un lien entre la réduction des risques de catastrophes naturelles et le développement humain.
Oui, il y a même un lien entre la réduction des risques et même la lutte contre la pauvreté.
Expliquez.
Un cas qui est très très documenté, c'est le cas de Philippines avec le Japon. Ce sont des pays qui sont très exposés aux risques, n'est-ce pas? Mais vous allez voir, il y a des typhons, etc. Mais aux Philippines, on arrive plus d'ampleur de dégâts. Et au Japon, c'est un peu réduit parce qu'au Japon, les gens sont préparés. Ils ont déjà étudié les phénomènes pendant plusieurs années. Il y a des systèmes qui fonctionnent, des systèmes de secours, il y a l'assurance, il y a la manière de construire, n'est-ce pas? Il y a une politique, n'est-ce pas, qui est mise en place pour tenir compte des catastrophes. Parce qu'ils ont les moyens, ils ont les capacités humaines. Ceux qui ont des moyens, ils savent s'adapter. Ils prennent des mesures pour s'adapter, par exemple, au réchauffement planétaire. Ceux qui ont des moyens, ils peuvent mettre un système, n'est-ce pas, de climatisation pour faire face. Mais ceux qui n'ont pas de moyens, ils subissent.
Charles, là, vous avez parlé des Philippines, c'est bien, et même du Japon, mais qu'en est-il de la République démocratique du Congo? Quelles sont les catastrophes et qui sont les plus fréquentes et puis comment il faut les éviter?
Je crois que chaque année, quand il y a la saison de pluie, à travers les médias, on apprend souvent au sud de Kivu qu'il y a eu glissement de terrain. Malheureusement, on n'a pas vraiment une base de données qui recense ça systématiquement, mais on le voit, on les apprend chaque année. Alors, pour le PNUD, il est question de voir comment aider le pays. Parce qu'actuellement, il y a un problème qui est reconnu. On a eu des missions qui sont venues les 2-3 années passées pour voir un peu comment la RDC était organisée, n'est-ce pas, pour faire face à ces genres d'aléas qui deviennent de plus en plus remarquables au niveau du monde. On a trouvé qu'il n'y a pas de plateforme qui fonctionne réellement, n'est-ce pas? Alors qu'il y a des textes qui sont aussi à mettre à jour, n'est-ce pas?
Donc, on va y arriver. Ouais. On va y arriver. Parlons un peu de votre projet.
Oui.
Pourquoi les choix du Bas-Congo, du Katanga et de Kivu vous comme province pilote et non pas par exemple l'Équateur?
En fait, si vous voyez la RDC dans l'ensemble, il y a beaucoup de zones où il y a des risques qui peuvent toucher aux vies humaines, aux infrastructures, dans beaucoup de provinces. Mais comme les ressources sont limitées, on a pensé qu'il fallait commencer, aider le gouvernement à avoir un cadre institutionnel qui marche. On avait prévu ces quatre provinces au début. Mais à la fin, on va se limiter d'abord au sud Kivu.
Pourquoi ?
On avait un critérium. C'est-à-dire, l'idée, c'est de voir ces dernières années où est-ce qu'on a eu vraiment une grande fréquence, n'est-ce pas,
de catastrophes.
Et puis, voir où sont beaucoup des bailleurs, des potentiels, des partenaires qu'on peut mobiliser pour rejoindre, n'est-ce pas, la dynamique. Donc, il y a un certain nombre de critères qu'on a utilisés pour...
Voilà. Donc, jusque-là, le projet n'a pas encore commencé, c'est ça?
On a lancé le projet officiellement le 21 et maintenant, il faut qu'on mette en place une équipe et il faut que les différents ministères concernés qui ont dans leurs attributions la gestion des risques puissent désigner des gens avec qui on va travailler durant tout le processus. Donc là, le processus est pour 2 ans d'abord et si on arrive à mobiliser d'autres ressources, ça devrait continuer.
Alors, vous avez parlé de province pilote, mais parlons de la réactivation d'une plateforme nationale. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu?
Ouais, il y a un arrêté de 1996 qui a institué ce qu'on appelle le Conseil de protection civile, qui était une plateforme, n'est-ce pas, qui devait réfléchir, coordonner, orienter sur la question de gestion de risque de catastrophe. Mais depuis 1996 jusqu'à présent, tous les acteurs qu'on a rencontrés et qui ont même été au lancement ont reconnu que ça n'a jamais fonctionné, n'est-ce pas? Alors, actuellement au niveau international, pour avoir accès au financement, il y a eu le cadre de Hyogo qui avait exigé, n'est-ce pas, que les pays puissent avoir une plateforme.
Le cadre Hyogo.
Le cadre Hyogo, c'est un cadre d'action de réduction de risque de catastrophe. C'est au niveau mondial.
Oui.
Comme on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup, beaucoup de dégâts qui sont causés par les aléas naturels, dus à la vulnérabilité des populations, il fallait que le monde entier se mobilise, n'est-ce pas, pour que les efforts des populations ne soient pas annihilés en peu de temps, n'est-ce pas. Alors, il y a un cadre d'action qui avait été proposé... au niveau mondial, un cadre qui allait de 2005 à 2015, qui vient de finir là, et qui donnait notamment les orientations pour comment organiser, n'est-ce pas, la réduction des risques de catastrophe. Donc, dans ce cadre, il était recommandé d'avoir une plateforme d'abord nationale. On doit mettre ça à niveau en intégrant l'évolution des concepts au niveau international, n'est-ce pas? Alors, le cadre de Hyogo venait de prendre fin en 2015, et actuellement, on parle de cadre de Sendai, qui fait suite, hein, qui succède à ce cas de Hyogo.
Donc, c'est toujours au Japon, là.
Au Japon, oui.
Oui.
Donc, le cadre bâti sur Hyogo et ajoute encore d'autres aspects pour améliorer la réduction du risque de catastrophe. Actuellement, la réduction du risque de catastrophe est vraiment traitée comme un problème de développement. Ce n'est pas seulement la réponse. Ce n'est pas attendre qu'il y ait catastrophe pour agir, mais il faut anticiper, n'est-ce pas?
Il faut prévoir.
Prévoir. Il y a des actions préventives et il y a des actions de relèvement.
Donc, et l'un des aspects de ces projets, c'est la cartographie à mettre en œuvre.
Oui.
Est-ce que nous pouvons en savoir plus?
La cartographie, c'est quoi? C'est juste avoir des informations organisées pour pouvoir prendre action quand il le faut. Parce que quand on ne connaît pas, n'est-ce pas, ces phénomènes, on ne connaît pas toutes les catastrophes, la réaction n'est pas bien préparée. Quels sont les zones où il y a beaucoup d'aléas, où il y a beaucoup de dangers, n'est-ce pas? Deuxième, il faut voir aussi quelles sont les capacités des communautés, n'est-ce pas, et les ressources dont ils disposent. Mais quand on a une carte, on connaît les zones dangereuses, donc on peut éviter cela. On sait aussi quelles sont les périodes où il faut être très prudent, n'est-ce pas? Comme celui qui vont voir que chaque fois qu'il y a des saturations de pluie, il y a des glissements de terrain. Vous voyez? Donc il faut voir comment construire, avoir la politique d'aménagement du territoire, politique d'habitat, tout ça, ça doit faire que, en tenant compte de la cartographie, on puisse prendre des dispositions pour éviter l'ampleur de catastrophes.
Oui, Charles, il y a des organisations non gouvernementales qui sont impliquées aussi dans ces domaines-là et aussi les gouvernements. Quel est le niveau d'implication, non seulement du gouvernement, mais des ONG avec qui vous devez travailler nécessairement?
Oui, je ne sais pas si vous avez été au lancement du projet. Si vous aviez été là, vous allez voir que la salle était tellement remplie qu'on a dû ajouter des chaises, etc. Parce que c'est un problème qui intéresse beaucoup d'acteurs, hein, qu'ils soient du secteur public, privé ou de la société civile. Mais jusque-là, on n'a pas encore mis les moyens, n'est-ce pas? Surtout financiers.
Et ces moyens doivent venir d'où? Est-ce que vous avez des ressources ou même des gens qui vous ont promis, des bailleurs de fonds qui veulent accompagner votre action, votre projet?
Pour le moment, le plus d'amis, quelque chose, n'est-ce pas, fait le tour de quelques partenaires des Nations Unies. Il y en a qui sont très intéressés et qui ont déjà aussi quelques ressources pour leur domaine spécifique. Mais on peut voir comment intégrer cela dans une dynamique d'ensemble. Bon, il y a la Croix-Rouge qui est là. Bon, il n'a pas promis des ressources encore, mais il y a un intérêt vraiment pour ce projet. Donc, les gens étaient vraiment très intéressés par ce projet. Ils ont trouvé que c'était un premier pas qui va permettre à tout le monde de communiquer, de mettre ensemble les ressources humaines, techniques, financières qui existent. Et puis, comme j'ai dit, dans le cadre, dans le cadre de la mise en place de la plateforme, peut aussi aider le pays à attirer d'autres financements. C'était une condition, n'est-ce pas, pour les bailleurs, pour pouvoir appuyer. On peut appuyer un pays qui n'est pas bien organisé. Donc, quand il y a un cadre, ça peut motiver, n'est-ce pas, la mobilisation des fonds au niveau international.
Oui, ça, vous l'avez dit. Une toute dernière question, monsieur Charles, la durée et les coûts du projet, nous pouvons avoir une idée.
Oui, c'est ça. D'abord, qu'on a commencé là, c'est deux ans. Deux ans et.
Mais ce qui est curieux, c'est que jusque-là, vous n'avez pas vraiment commencé. Donc, deux ans, c'est dans quelques 24 mois. Alors, vous n'avez pas encore commencé.
On a commencé, on vient actuellement de lancer les appels à candidature pour des postes de consultants qui vont nous aider à organiser la plateforme, à revoir les textes, etc. Deux ans, c'est court, effectivement, mais comme je dis, c'est une action pour mobiliser d'autres appuis et on pourrait continuer.
Charles Wasikama, nous vous remercions.
Merci beaucoup.
Nous ouvrons cette page par l'UNICEF. Le Fonds des Nations Unies pour l'Enfance célèbre ce 31 mai le deuxième anniversaire de la promesse renouvelée. La promesse renouvelée était un engagement pris par le gouvernement congolais et ses partenaires, dont l'UNICEF, en vue d'accélérer la réduction de la mortalité infantile et maternelle. Cela au regard des objectifs 4 et 5 du millénaire pour le développement. Volet électoral, le bureau genre de la MONUSCO Ituri a répertorié 19 candidatures féminines sur les 90 déposées dans les 4 territoires de ce district de la province orientale. C'était du moins la situation observée jusqu'au 21 mai 2015 à l'occasion d'une rencontre organisée par le bureau genre de la MONUSCO avec les femmes candidates aux prochaines élections provinciales. Restons à la MONUSCO cette fois avec UN Paul, antenne de Mbujimayi, qui a dispensé au cours de la sensibilisation et d'initiation sur les violences sexuelles. Le cours avait eu lieu au cours d'une session de 3 jours du 20 au 22 mai dernier au chef-lieu de province du Kassai Oriental. Une session destinée aux officiers judiciaires des unités de police spéciale de protection de l'enfant contre les violences sexuelles.
Magazine des Nations Unies, l'invité.
Le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, BCNUDH, a organisé du 27 au 28 mai dernier à Kinshasa un atelier de formation et de sensibilisation des formateurs sur les droits des albinos. Selon l'Association nationale des albinos du Congo, les albinos sont victimes de discrimination et de torture dans la société. Comment garantir les droits de cette catégorie de Congolais et assurer leur intégration sociale? José Maria Aranaz, directeur du BCNUDH, est l'invité du magazine des Nations Unies. Il répond aux questions de Jean Pierre Ilali Ikoko.
José Maria Aranaz, bonjour.
Bonjour.
Le bureau conjoint des Nations Unies, dont vous êtes le directeur, vient d'organiser pendant 2 jours un atelier de formation de membres d'associations des albinos congolais. Alors, pourquoi avoir choisi cette catégorie de personnes?
Merci beaucoup pour votre intérêt dans notre atelier. La question des albinos, c'est une question très importante parce qu'on parle d'un groupe de personnes, des hommes, des femmes, des enfants, de plusieurs millions de citoyens dans la République démocratique du Congo, qu'ils sont menacés, qu'ils sont les victimes de la superstition, qu'on manque une protection effective. Par la population en général, on manque la connaissance de quels sont leurs besoins pour les protéger mieux.
Voilà, pour mieux les protéger, alors c'était justement l'objectif de cet atelier.
L'objectif de l'atelier, c'était d'un côté améliorer la connaissance des droits spécifiques des albinos et même aussi de contribuer à la connaissance en général pour toute la population de quels sont les besoins concrets des albinos en tant de diminuer les menaces et les périls contre eux.
Donc il faut sensibiliser la population sur les droits propres aux albinos, c'est ça?
Oui, il faut sensibiliser la population en général, les autorités et même la famille des albinos. Parce que comme vous savez, il avait les problèmes des albinos, c'est pas seulement une menace physique. Il y a aussi un problème très grave des besoins spécifiques qui ne sont pas mis en place par les autorités, même des santé ou d'éducation. Mais on fasse aussi un problème très grave de discrimination au niveau de la famille, au niveau des collines, au niveau de la population en général.
Oui, José Maria Aranaz, vous avez dit qu'il s'agit des gens qui sont victimes des discriminations, des mauvais traitements et même des pratiques de torture en République démocratique du Congo et partout ailleurs, hein, parce qu'on a suivi aussi dans les pays limitrophes, il y avait des problèmes de torture contre les albinos. Alors, quelles sont les pistes de solutions que préconise votre bureau, donc le bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme ici, pour répondre justement à ces violations des droits des albinos?
Ce que notre rôle, notre papier a joué ici, c'est de contribuer à trouver la solution. On n'en a pas la solution magique, on n'en a pas une solution qui va résoudre tous les problèmes, mais on va contribuer améliorer la connaissance que sont les besoins concrets des albinos. Nous sommes prêts à contribuer à la connaissance en général, à mettre en place des mécanismes concrets, par exemple pour la protection juridique, ou par exemple avec les mesures concrètes qu'il faut aider notre effort avec les autorités nationales, au niveau local, aussi avec toute la population, pour améliorer les connaissances en tant que ça et contribuer à améliorer la situation.
Alors, vous avez parlé tout à l'heure de la protection juridique et le président de l'Association nationale des albinos du Congo a, au cours de cet atelier, plaidé pour un projet de loi au Parlement pour la défense des droits des albinos. Comment le bureau conjoint compte-t-il les aider dans cette démarche?
Nous pensons que ça c'est une initiative très très importante, parce que ça c'est le début de donner un cadre de protection juridique qui marque les territoires de tous les besoins et même aussi les obligations de l'État et des autorités, mais même aussi les droits des albinos. Nous sommes prêts à faire le plaidoyer ensemble et très fortement avec les autorités pour avoir ces lois passées par le Parlement au plus tôt possible. De l'autre côté, nous avons aussi l'expertise internationale et comparative, parce que le problème des albinistes, comme vous avez bien dit, c'est pas unique à la République démocratique du Congo. Et nous avons les connaissances de ce qui s'est passé dans les autres pays, surtout de la sous-région. Et nous sommes prêts aussi d'amener ici l'expertise de ce qu'ils sont les bonnes pratiques pour donner la protection effective dans les cadres légaux.
Voilà, et le 13 juin prochain, c'est la journée internationale ou même mondiale des albinos, décidée par les Nations Unies. Et l'association a sollicité plutôt votre appui financier et logistique pour l'organisation de cette journée. Et qu'entend votre bureau faire pour répondre à cette sollicitation?
Il faut marquer très clairement la date du 13 juin au calendrier pour utiliser, pour nous profiter de cette date pour contribuer à une connaissance plus grande dans tous les pays quels sont les droits et les nécessités des albinos. Nous sommes en train de parler avec l'association des albinos de la République démocratique du Congo et voir comment est-ce qu'on peut les aider de même façon qu'on a déjà donné l'appui dans cet atelier pour améliorer les connaissances de leurs droits.
Donc José Maria dit, je suis prêt, je vais aider les albinos à organiser cette journée.
Je suis prêt, je vais aider les albinos, je suis albino.
Ah ok, ça c'est une bonne chose, mais est-ce que vous connaissez le nombre d'albinos ici en République démocratique du Congo?
Il n'y en a pas de statistiques officielles, mais je pense que c'est à conséquence de la stigmatisation qu'il y a et de la marginalisation qu'il y a, la discrimination contre les albinos. On a parlé de plusieurs millions de albinos, surtout il y a un problème très grave. Ils sont beaucoup de problèmes à la province de Kasaï, où il y a un cadre de population important. Mm-hmm. On a parlé de entre 5 et 7 millions d'albinos, mais il n'y en a pas de statistiques officielles. Comme j'ai dit, c'est important aussi de reconnaître que les efforts pour améliorer la connaissance ont la répercussion dans les mesures concrètes pour améliorer la situation des albinos. Par exemple, on m'a parlé que le ministre d'éducation primaire et secondaire a reçu une pétition pour arrondir les tailles des caractères pour les examens pour les étudiants albinos, pour l'agrandir aux tailles 18. Comme vous savez, les albinos ont beaucoup de problèmes
de lycée,
et ça peut les aider par les examens.
Et voilà, nous venons de faire le tour complet de la situation des albinos en République démocratique du Congo. Est-ce que vous avez un dernier mot?
Mon dernier mot est que nous sommes prêts à les céder et il faut faire un plaidoyer très fortement aux autorités, à la communauté internationale pour les céder. Finalement, le dernier mot, c'est « Je suis albino ».
Monsieur José, je vous remercie.
Merci beaucoup.
Au Katanga, le gouvernement congolais et le HCR ont réouvert le lundi 25 mai dernier le bureau d'enregistrement pour permettre à plus de 400 réfugiés rwandais de Lubumbashi qui ont raté leur enregistrement biométrique organisé au mois d'avril 2015 de se faire enregistrer. Jean-Pierre Pungu, chargé de protection au bureau du HCR Lubumbashi, l'explique au micro de Denise Maéo.
À Lubumbashi, nous attendions 1000 personnes, mais nous n'avions reçu que 599. Donc il y a beaucoup qui ont raté. Comme à Lubumbashi, l'enregistrement s'est déroulé du 13 au 16 avril et après nous avons commencé à avoir beaucoup de coups de fil et beaucoup passé à notre bureau pour demander si on pouvait les enregistrer. C'est ainsi que la hiérarchie a résolu d'organiser des séances de rattrapage pour ceux qui avaient raté. Donc tous ceux qui ont raté sont appelés à passer au bureau le lundi avec leurs dépendants, donc femmes et enfants, y compris ceux qui ont les conjoints congolais, donc la femme rwandaise qui a un mari congolais ou le mari rwandais qui a une femme congolaise, il peut l'amener pour qu'on puisse enrichir toute la famille.
Magazine des Nations Unies, question aux Nations Unies.
Écoutez cette question posée à partir de Beni dans le Nord Kivu et la réponse donnée à Kinshasa par Yvon Edoumou du bureau OCHA RDC. La question porte sur la situation humanitaire à Beni justement.
Je suis Frédéric Katé Diouf de la radio Oasis Congo FM TV Beni. Ma question est de volet humanitaire. Plusieurs villages du territoire de Beni sont vidés aujourd'hui de ses habitants, fuyant les atrocités des rebelles ADF pour se concentrer à Beni sans assistance. Y a-t-il un plan ou une disposition de contingence ou d'assistance humanitaire de votre part en leur faveur?
Je pense qu'il est incorrect de dire qu'il n'y a pas d'assistance qui est distribuée aux populations de Beni. Effectivement, c'est une zone qui subit des violences depuis de nombreuses semaines. Et en ce moment, le travail que nous faisons est de s'assurer que l'aide que nous comptons apporter aux populations n'a pas un effet inverse. C'est-à-dire que en leur apportant de l'aide, on ne peut pas en même temps attirer des groupes armés qui viennent eux aussi piller cette aide-là, afin d'en profiter en fait. Donc c'est un travail qui est assez délicat. Effectivement, il est clair que tout le monde ne reçoit pas tout en même temps, mais les Nations Unies, OCHA, les agences humanitaires et les ONG nationales et internationales sont dans la zone et c'est un travail qui continue. Effectivement, on comprend très bien la frustration des populations de vouloir recevoir l'aide le plus vite possible, autant que possible, et en ce moment, nous faisons de notre mieux.
Magazine des Nations Unies. Portrait du jour.
Je suis Nounou Ngoy, mais mon nom de baptême c'est Catherine. Je suis mariée et mère de deux filles. Mon mari s'appelle Monsieur Sanza. Voilà pourquoi certains collègues m'appellent Ngoy Sanza. J'ai grandi au Katanga, plus précisément à Lubumbashi. J'ai fait mes études primaires et secondaires à l'Institut Madini. Madini, c'est une école de la GKMIN qui fut l'une des meilleures écoles du Katanga. Pour ce qui concerne mes études académiques, j'ai fait l'université à l'ISTI, aujourd'hui FASIC. Concernant mon parcours professionnel, pour ceux qui ne le savent pas, pour le moment, je suis journaliste à la Radio Capi. Je fais partie de l'équipe Okapi Service, un magazine interactif de société. Là, je suis productrice et coordonne avec un collègue. Pour les polyvalents dans Okapi Service, je suis également chroniqueuse. Je produis la chronique Développement durable et environnement. Chaque jour, je produis une chronique qui passe à 5h20 du matin et 16h15 de l'après-midi. Je suis passionnée pour les questions liées à l'environnement. Chaque jour, quand j'arrive au bureau, c'est le travail qui commence directement. Il faut se rassurer si les invités qui doivent venir en studio seront effectivement là. Après, il faut voir si les reportages des provinces sont prêts. Ce sont des reportages qui doivent passer dans le magazine, bien entendu. Juste après, j'assiste à la réunion de coordination pour présenter les sujets du jour qui doivent passer à l'antenne. À cette réunion, le rédacteur en chef et les autres collègues peuvent recadrer les sujets ou donner des orientations et proposer même des questions à poser aux invités. Juste après, c'est l'émission qui passe, on est en plein dedans. Il faut gérer les auditeurs, rappeler les invités. J'ai la chronique ONG partenaire qui passe dans cette émission. Après l'émission, il faut vite préparer la réunion de midi. Tout le jour à midi, nous avons réunion. Et généralement, je ne prends pas de pause. L'après-midi, je suis sur la chronique développement durable et environnement. Pour cette émission, je contacte des personnes ressources qui sont des experts en environnement. Et j'ai la matière et puis j'enregistre, quoi. En fait, avant de venir ici à la Radio Capi, je venais tout droit du secrétariat général du gouvernement. J'étais l'attaché de presse du secrétaire général du gouvernement à l'époque de 1+4. Comment je passe mon temps libre? Je passe mon temps libre à parler avec mes sœurs qui vivent très loin de moi et mon papa. Donc je suis très attachée à ma famille et je suis passionnée des réseaux sociaux. Je passe également mon temps à publier des articles sur mon blog que j'ai créé il n'y a pas très longtemps. Et ça me prend tout mon temps et j'aime ce que je fais. Pour l'aimer, je ne suis pas très exigeante. Je mange tout ce qui est comestible, le sport. J'ai fait très souvent la marche et quand je sens que j'ai pris des kilos, je prends un abonnement pour faire le sport dans une salle de gym avec d'autres personnes. Là, ça vous stimule à faire vraiment la gymnastique. J'aime la musique de mon pays. J'aime écouter du Kofi. C'est très romantique, je trouve, et très profond. Mes moments des loisirs, je les passe avec ma petite famille puisque j'estime que j'ai pas beaucoup de temps en semaine. Il faut dire que c'est le week-end que je suis à la maison et que j'ai du temps. Nous regardons ensemble les films. Donc, quand je dis ensemble, je vois mon mari et mes filles. Mes filles, elles aiment suivre le match et très souvent leur papa les emmène là où il y a belle ambiance, dans les restos ou là où il y a des écrans géants. Quand il fait très chaud, j'amène souvent mes enfants nager. Et ce que je fais souvent aussi, c'est que quand il n'y a pas de courant, nous sortons prendre un verre dans le quartier. Nous sortons manger ailleurs. Et ça ne nous coûte pas cher puisque c'est une petite famille, une famille à deux enfants. Je passe beaucoup de temps avec mes filles qui sont devenues des adolescentes aujourd'hui. J'échange sur divers sujets de la vie. Je leur parle des sujets tabous. Je leur parle du viol, du sexe. Puisque moi, je n'ai pas eu cette chance avec mes parents. C'était vraiment des sujets tabous à l'époque. Nos parents ne nous parlaient pas sexe. Nos parents ne nous parlaient pas du viol. Dans quelques années, je me vois patronne de mon agence de communication. Après autant d'années passées dans une grande radio comme celle-ci, je pense que je suis à mesure de diriger mon entreprise aujourd'hui. Je ne me vois pas demandeur d'emploi, mais créateur. En tout cas, avec le soutien de Dieu, parce que moi je suis chrétienne, je crois que j'y arriverai. Merci.
Magazine des Nations Unies. Tout sur les faits saillants des activités des agences du système des Nations Unies en RDC. Chaque dimanche de 10h à 10h30, heure de Kinshasa, sur Radio Capi.
Un rendez-vous important à retenir pour la semaine qui commence. Il s'agit d'un séminaire dit de haut niveau prévu du 2 au 4 juin 2015 à Kinshasa. Ce séminaire, à la fois politique et technique, se tiendra sous l'autorité du Premier ministre congolais avec le soutien de la communauté internationale et de la MONUSCO. C'est dans le cadre du suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba. Ici s'achève cette émission coordonnée par Jean-Pierre Elali Ikoko sous la supervision de Ben Kabamba. Honoré Missenga était au reportage, à la présentation Thérèse Bassoubi avec le concours à la technique d'Hippolyte Kapanga. Vous pouvez retrouver ce numéro sur notre site radiocapi.net. Rendez-vous donc dimanche prochain pour une nouvelle édition de ce magazine consacré aux agences des Nations Unies et à la MONUSCO. Excellente journée dominicale à tous.